Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et ce vendredi matin, notre invité politique est Charles Compagnon. Il est conseiller municipal d'opposition à Rennes. Il est également président du groupe Libre d'agir pour Rennes. Il a fait le déplacement pour être en direct ce matin. Je l'en remercie. Il y avait même des embouteillages. Bonjour.
Bonjour Stéphane, merci pour l'invitation.
Alors on va parler d'une expérience que vous avez vécue en ouverture de cette interview de la matinale. Une expérience qui n'était pas politique, quoique on pourrait peut-être en tirer quelques conclusions politiques. Vous avez été pris dans cette fusillade qui a fait la une des journaux il y a une petite quinzaine de jours. Maintenant, vous étiez avec un collègue, surgissent des dealers et règlement de compte, ça se passe au Subway à Rennes et vous êtes au milieu de tout ça. J'avais envie de vous entendre raconter, donner votre témoignage.
Alors, effectivement, on est toutes les semaines avec des élus, et notamment là, il s'avère que c'était Nicolas Boucher. Toutes les semaines, on est dans les quartiers, soit à la rencontre des habitants, soit pour donner rendez-vous dans les quartiers de la ville. Et là, on avait donné, effectivement, jeudi 17 avril, rendez-vous à quelqu'un. Et puis, on cherchait un endroit, un café, un PMU pour faire ce rendez-vous autour d'un café. Et puis, il s'avère que là, c'était le Subway qui était ouvert, à côté c'était fermé, et on s'est installé pour commencer notre rendez-vous. Et effectivement, nous sommes retrouvés au milieu d'une fusillade, d'un règlement de compte, puisque c'est a priori ça qui se dessine aujourd'hui. Et voilà, on a vu des jeunes se réfugier juste derrière nous, et puis d'autres arriver quelques minutes après avec une arme de guerre et une arme de poing, et puis leur tirer dessus. Il s'avère que... je me suis retrouvé entre les deux, donc j'ai eu mon salut qu'au fait de plonger au sol en attendant que les balles passent au-dessus, atteignent malheureusement trois personnes quand même, trois jeunes qui étaient visés. Mmh. Et puis voilà, pour résumer très rapidement la scène qui est, comme j'ai dit, c'était une scène de film de Tarantino. On est au moment du Festival de Cannes, voilà, c'était au milieu, et d'ailleurs ça paraît même... assez surréaliste de le raconter encore, parce que ça me paraît même plus vraisemblable à moi, tellement c'est énorme.
Alors il faut préciser qu'il y avait plusieurs personnes dans ce café, dans ce Subway, dont un père et sa petite fille. Ça vous a marqué, je crois.
Ouais, ça m'a marqué beaucoup, parce que j'ai vu ce papa, effectivement, qui était à l'extérieur et qui rentre quand il sait qu'il y a des gens qui vont arriver pour attraper sa petite fille. Et je vois toujours sa posture où lui, il est dos. On peut pas s'échapper, il n'y a qu'une porte. Il arrive avec son arme de guerre devant la porte. Et le papa, en fait, lui, s'est mis de dos. Après, sa petite fille s'est recroquevillée et a fait rempart de son corps pour sauver sa petite fille. D'ailleurs, il avait un petit neveu qui a fait la même chose. Un petit jeune homme qui a fait la même chose. Et voilà, donc c'est aussi des choses maintenant qui reviennent pour dire, voilà, il y a eu des belles attitudes dans ce drame, il y a eu des belles attitudes, et voilà, l'image de ce papa et on est resté en contact d'ailleurs. On est resté en contact. Il y a quelque chose qui s'est passé avec les victimes de cette fusillade, où on s'est recroisé l'autre fois avec une maman et sa fille dans le métro. Voilà, on a traversé les rames pour se revoir, pour se dire bonjour, pour prendre nos nouvelles. Bon, on a vécu quelque chose d'un peu exceptionnel. Et qui malheureusement 15 jours après s'est reproduit. Donc peut-être qu'il devient de moins en moins exceptionnel à Rennes.
Et ça pose la question quand même de cette, alors certains disent en sauvagement, d'autres disent de cette insécurité qui a lieu à Rennes. Ça pose aussi la question de ceux qui étaient visés, qui sont des jeunes, des très jeunes. Je crois que vous les avez recroisés aussi, vous les avez revus.
Oui, jeunes. Alors j'ai revu leurs amis, parce que 15 jours après cette fusillade, une nouvelle fusillade, moi ce que j'appelle à l'aveugle, c'est-à-dire des gens qui rafalent, enfin c'est impressionnant de voir ces impacts de balles dans ces voitures. J'ai pris des témoignages justement de personnes où la sœur est arrivée 30 secondes avant, enfin bon, en l'occurrence ça a encore fait des blessés. Ces scènes-là, elles sont en train de se multiplier à Rennes. Vous voyez, j'étais encore en rendez-vous hier où on m'a dit ça va péter. Je remploie le mot. C'est-à-dire qu'on sait que il va y avoir de nouvelles scènes, malgré le travail impressionnant de la police nationale qui arrête tous les jours des personnes liées au narcotrafic à Rennes. Hein. La police nationale fait un travail important.
On en avait parlé lorsque vous étiez venu à ce micro, des manques de moyens, des besoins de la police nationale, mais aussi de la police municipale qui revendique beaucoup de choses. Et puis, il y a eu cette passe d'armes par presse interposée entre le syndicat Efopolis et la maire de Rennes. Et vous avez été, là aussi, j'allais dire, mis dans la boucle.
En fait... effectivement, aujourd'hui, il y a FO Police et les policiers municipaux en général qui demandent un armement. Et puis, il y a en face des élus de la majorité qui disent non, vous n'en avez pas besoin parce que vos missions ne nécessitent pas un armement. Moi, je voudrais quand même rappeler à vos auditeurs que la grande majorité des policiers municipaux en France sont armés. Hein, d'armes, quand on dit armés, d'armes létales de type Glock 17, de pistolet, pour parler... clairement. Et à Rennes, non, parce qu'on estime que leur mission ne nécessite pas cet armement. Alors, aujourd'hui, les gens, ils font pas la différence entre un policier municipal et un policier national dans la rue, sur le bleu. Deux, ils sont amenés à intervenir dans des endroits où il peut y avoir des fusillades. Et ils doivent pouvoir se protéger eux-mêmes, protéger les gens. Et je voudrais vous apporter une précision ce matin, parce qu'on a caricaturé souvent mes propos, et particulièrement Madame la maire de Rennes. L'armement de la police municipale, nous le demandons depuis 2019, pas pour lutter contre les Kalachnikovs ou les Tokarev, c'est-à-dire les fusils d'assaut russes. Nous le demandons au quotidien pour soutenir l'action de la police nationale. Parce que je vais vous préciser que dans cette fusillade du 17, les policiers nationaux qui sont intervenus, ils ne sont pas intervenus avec des pistolets. Ils sont intervenus lourdement armés. C'est pour ça qu'ils ont pris un tout petit peu plus de temps pour arriver sur la scène de la fusillade. Donc, la police municipale armée, c'est une police de soutien à la police nationale. Les missions ne sont pas les mêmes. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de laisser des policiers municipaux dans certains quartiers, dans certains squares, à leur demander de faire du harcèlement de narcotrafiquants sans cet équipement. C'est criminel.
Ils risquent leur vie, finalement.
Ils risquent leur vie. Les policiers municipaux, de mémoire, hein, en 2024, ont dû faire une centaine d'interpellations, 107, je crois, sur du narcotrafic. Donc, ils sont au cœur du système, ils sont au cœur de la protection des citoyens, et ils doivent avoir l'équipement nécessaire. Et c'est cette passe d'armes qui a eu lieu avant-hier, entre, effectivement, l'élu à sécurité, la maire de Rennes, et les syndicats de police, que je soutiens pleinement.
Nathalie Appéré qui s'est défendue, qui a dit voilà, moi je n'ai pas les moyens, y compris juridiques, dit-elle, de faire plus. Je pense à ses propos, elle souhaite que ce soit l'État qui intervienne plus encore.
Eh bien, je vais vous dire, Nathalie Appéré, elle a raison. Voilà, un opposant qui dit, Nathalie Appéré, elle a raison de dire que l'État doit... prendre sa part, l'État doit plus intervenir, l'État doit apporter des moyens d'enquête sur le terrain à Rennes et prendre en considération la situation rennaise et j'ai envie de dire même la situation bretonne parce que vous savez que je suis très focus sur ma ville Rennes, notre capitale, mais voilà, c'est malheureusement en Bretagne on a plusieurs faits comme ça.
La Bretagne attire finalement
elle attire le narcotrafic. Alors attention, hein, il faut que je fasse. Elle a raison, mais à partir du moment où les moyens ne sont pas tous là, à partir du moment où il manque, il y a un trou dans la raquette, comme on dit, la maire de Rennes, le maire de Rennes, il a le pouvoir de police et il a le pouvoir aussi de renforcer ses moyens de police. Il a le pouvoir, il a le devoir de sécurité. Hein. Un policier, je suis venu avec cette petite feuille parce qu'on m'a envoyé, pas pour ce matin, hein, mais on m'a envoyé il y a 4 jours les attributions de police du maire.
Vous pouvez les montrer à la caméra là, pour ici, nos auditeurs.
Voilà, qu'on m'a envoyé et effectivement, les articles sont clairs. La maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique et de prévention de la délinquance. De sécurité publique. Il y a des maires qui ont pris ce dossier à bras-le-corps et puis il y a des maires qui disent c'est l'État, c'est l'État, c'est l'État. Pas que.
Alors, Vous avez décidé, il y a quelque temps, Charles Compagnon, de faire, j'allais dire, une tournée des mairies qui ont décidé d'investir sur la sécurité pour voir un peu comment elles travaillent un peu partout en France. Hein. C'était pour vous une volonté de pouvoir lister un petit peu ce qui se fait, de pouvoir comprendre comment les gens travaillent ?
Tout à fait. Ça se situe dans un, j'allais dire, dans un programme que j'ai dressé, que nous avons dressé avec toute une équipe, où en 2020, effectivement, avec d'autres, j'ai été élu président de groupe d'opposition à la mairie de Rennes. Donc, je travaille sur le terrain Rennes-Rennes, les conseils municipaux, il y en a un lundi prochain, 19, les conseils métropolitains. Donc, ça, c'est le travail local. Et puis, effectivement, j'ai élargi ce travail au-delà du périphérique rennais pour aller à la rencontre de certains maires de l'Ouest pour aller voir ce qu'on appelle en entreprise les bonnes pratiques et voir comment ces bonnes pratiques peuvent s'appliquer à Rennes. Donc, effectivement, j'ai eu le privilège d'être reçu par le maire d'Angers. Et j'ai passé 2 jours de voyage d'études aussi à Toulouse. J'avais rencontré Joël Bruno, le maire de Caen aussi. Voilà, pour voir comment eux prennent ces dossiers-là. Et quand je me déplace, je vois plusieurs dossiers. La sécurité, bien sûr, les mobilités, l'urbanisme. Mais effectivement, en l'occurrence, à Toulouse, on a beaucoup parlé sécurité parce qu'ils ont des pratiques qui sont extrêmement intéressantes en termes de protection du citoyen.
Vous parlez d'urbanisme. On parle beaucoup de Rennes et de son urbanisme. Est-ce que, en matière de sécurité, l'urbanisme dit aussi quelque chose ? Parce que on voit certaines villes qui décident de détruire des tours, de faire de l'habitat plus convivial, plus humain, on pourrait le dire comme ça. Est-ce que là aussi, il y a peut-être une piste de travail et sur les mobilités également ?
Alors, l'urbanisme, j'ai l'habitude de dire, tout est dans tout, tout est lié. Il faut raisonner en complexité, comme disait Edgar Morin. Mais l'urbanisme qui est proposé à Rennes est chemin d'insécurité. Je vais vous prendre un exemple extrêmement concret. La plaine de Beau, qui a été entièrement aménagée, quand vous discutez avec les policiers municipaux, ils vous disent « c'est une catastrophe ». Parce que la manière dont sont construits les immeubles, la manière dont on a refait des cours intérieurs, la manière dont on a des escaliers qui permettent pas à des scooters de police ou des VTT ou des véhicules d'intervenir, des passages très étroits, ils disent cet urbanisme-là, cet aménagement-là, c'est fait sans concertation avec la police nationale ou municipale et c'est potentiellement chemin d'insécurité. Donc effectivement, aujourd'hui, quand on pense urbanisme, on doit penser aussi sécurité. Et l'urbanisme en lui-même n'est pas non plus la panacée parce qu'on voit que au Blône, où tout a été rénové, la place du Bada entièrement neuve, le conservatoire, un bel équipement, c'est quand même là où en mars 2024, il y a une fusillade de plus d'une heure au pied des immeubles rénovés. Donc, la rénovation urbaine que met en avant Nathalie Appéré, c'est forcément quelque chose de bien, mais s'il n'y a pas le deuxième volet, qui est le volet présence policière, répression, installation de caméras, et tout le dispositif qu'on réclame depuis 2019, avec cette grande équipe qu'on avait fondée, ça ne marchera pas. Et la preuve est là.
Alors justement, c'est une question de dogme, de choix politique, de voilà, la gauche ne touche pas aux questions de sécurité. C'est ça que vous ressentez dans la démarche, ou en tout cas dans la volonté de Nathalie Appéré de ne pas faire bouger les choses, de ne pas faire évoluer les choses ?
En tout cas, dans les faits, c'est ce qu'on observe. Donc clairement, puisque ce que je vous disais à l'instant, il y a un certain nombre de leviers qui ne sont pas activés par la maire de Rennes, et on les sent empêchés, parce qu'en fait, clairement, on ne voit pas pourquoi ils n'arment pas la police municipale. Et je vais même vous donner un scoop ce matin. Moi, je pense qu'avant la fin du mandat, il y aura une annonce pour dire que la police municipale sera armée. Parce qu'on ne va pas pouvoir être la dernière grande police municipale de France non armée. Ce n'est pas possible quand on voit aujourd'hui la dégradation du climat de sécurité à Rennes.
Alors, l'armement de la police, il y a effectivement les élections municipales qui arrivent, on va en dire un mot avant de nous quitter, mais justement ça peut être aussi cette échéance municipale, le fait de pouvoir faire passer des idées, de pouvoir enclencher des changements.
Au-delà de faire passer des idées, puisque c'est effectivement traditionnellement l'occasion pour les uns de revendiquer et pour les autres de passer des idées, c'est aussi une élection municipale, c'est aussi l'occasion de proposer aussi aux Rennaises et aux Rennais une autre vision à condition qu'ils décident de changer de majorité. Donc c'est sur ce thème-là qu'avec un grand rassemblement, on travaille depuis maintenant 6 ans à Rennes.
Justement, un rassemblement à droite et au centre, alors on voit qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Hein. Est-ce qu'on peut imaginer demain une alternance à Rennes, un changement à Rennes ?
Alors on l'imagine d'autant plus cette alternance qu'elle nous est beaucoup demandée sur le terrain. Je vous disais en début d'entretien que je suis toutes les semaines sur le terrain. Ça fait 6 ans, je crois que je viens de faire ma 162e visite de quartier à la Touche. Donc voilà, on récolte vraiment ce que nous disent les Rennaises et les Rennais, les milliers de Rennais qu'on a rencontrés. Il y a une demande en tout cas d'une autre vision pour la ville, d'un autre destin pour la ville. Et ce destin-là, cette alternance-là, elle sera rendue possible effectivement à condition d'avoir un grand rassemblement. Moi, je m'étais engagé dans un rassemblement, parce qu'à l'époque où je m'étais présenté en 2020, où j'avais été élu, j'avais pas d'étiquette. Et autour de moi, effectivement, il y avait des LR, il y avait du MoDem, il y avait de l'UDI, il y avait le Parti Breton. Donc on était déjà dans cette idée de rassemblement. Aujourd'hui, on rassemble un peu plus large encore. Tous ces partenaires-là, on continue à discuter avec eux. Et c'est une condition sine qua non d'une alternance à Rennes. C'est pas la condition unique, mais en tout cas, sans rassemblement, effectivement, il n'y a pas d'alternance à Rennes.
J'ose la question provocante. Vous vous imaginez dans le costume de maire de Rennes ?
Alors, je vais vous dire que je me rase le matin.
Voilà. Alors, bah, écoutez, voilà, on peut imaginer que vous y pensez un petit peu quand même. Charles Compagnon, on voit un contexte politique qui a beaucoup bougé ces dernières années. Il y avait le président de la République en début de semaine qui s'est exprimé à la télévision chez nos confrères de TF1. J'avais envie, sur un volet un peu plus politique, de vous entendre sur cette expression présidentielle. Est-ce que pour vous, le président a encore réussi à convaincre les Français ou plus du tout ?
Je pense que l'exercice est compliqué. Je crois que je fais partie des 5 millions de Français qui ont dû regarder un petit peu. Je vous parlais de vision pour Rennes tout à l'heure. J'ai pas vu la vision pour la France.
C'était un peu ça ma réflexion.
Voilà, et vous savez que je suis toujours très prudent sur les commentaires nationaux parce que l'essentiel de mon travail, et pour pas dire tout mon travail, consiste à Rennes et Rennes Métropole. Et la Bretagne, mais voilà, il se passe quelque chose après la Gravelle, donc on regarde ce qui se passe à Paris, même si je suis un affreux Girondin. Mais effectivement, on va dire que j'ai pas été totalement convaincu et que j'aurais aimé qu'on nous dessine une vision plus nette de ce qui va se passer dans les 2 ans qui viennent.
Avec, là encore, des moyens qui sont réclamés par de nombreuses villes, donc par Rennes, et vous en faites le porte-parole, pour que là aussi l'État soit plus présent sur le terrain, alors par rapport à la sécurité, mais par rapport aussi aux problématiques sociales. Est-ce que vous craignez que, pour dire les choses telles qu'elles sont, qu'il y ait à un moment une grande fracturation de la société, c'est le cas dans les grandes villes bien souvent, et que le dialogue soit tout à fait rompu avec tout ce qui peut arriver en termes politiques, mais aussi plus bassement sociétal.
Le risque, il est réel. Ça a déjà craqué. Enfin, je veux dire, c'est pas jouer les oiseaux de mauvaise augure que dire que c'est possible ou s'amuser à se faire peur. Je rappelle que la crise des Gilets jaunes, on l'a pas fantasmée. Elle a existé, elle a été extrêmement violente. D'ailleurs, c'est ce qui m'avait un peu fait sortir à l'époque du bois, comme on dit, en tant que président de l'assaut des commerçants, avec tout ce qu'on avait vécu à Rennes. Mais justement, cette fracture-là, elle est aussi liée à mon combat local parce que c'est pas que j'attaque, mais je ne suis pas pour l'ultra-métropolisation. Et les métropoles sont pour moi chemin de violence, chemin d'entassement, chemin de crispation. Et cette fracture-là, on la sent plus particulièrement aussi dans les grandes métropoles, Lyon, Brest, Rennes, Grenoble, je ne vais pas toutes les citer. Donc oui, je pense qu'il faudrait une autre orientation politique nationale, une autre politique de décentralisation, une autre politique d'équilibre des territoires. Mais là, il va falloir me réinviter pour parler de tout ça.
Vous reviendrez bien évidemment, puis je crois que la campagne va très vite démarrer. Donc voilà, et on va suivre particulièrement ce qui se passe à Rennes. Du point de vue sociétal, on le voit aussi, il y a une crise économique aujourd'hui. On retrouve souvent parmi, et ça nous ramène un petit peu au propos du début avec ces fusillades à Rennes, on retrouve souvent de jeunes hommes qui se retrouvent embarqués dans le trafic de stupéfiants, finalement par esprit de lucre, pour gagner de l'argent. Est-ce que là aussi, on n'a pas proposer d'alternative à ces jeunes hommes qui finalement se retrouvent dans ce trafic là?
Ils sont forcément à un moment donné abandonnés. Mmh. La question aussi ne peut pas être répondue, mais je vais le faire en 30 secondes, parce qu'elle touche à l'éducation, elle touche à la prévention, elle touche aux mamans qui élèvent seules les enfants. Je pense à un QPV comme Morpa, où c'est une vraie problématique, problématique d'autorité, d'autorité familiale. Comment vous voulez dire à un enfant d'apprendre ces tables de multiplication quand, en sortant du primaire, il y a un gars qui va lui dire, il faut que vos auditeurs entendent ça, qui va lui dire, tiens, je te donne 50, 100 euros pour aller me chercher un kebab ou alors pour me prévenir si la police arrive. Moi, je les vois, je suis dans les quartiers, je suis sur tous les points de deal.
En observateur. Vous avez discuté avec eux déjà?
Bien sûr, je discute. Ils savent ce que je pense. Quand je discute avec eux, je commence toujours par vous savez ce que je pense de votre business. Mmh. Voilà, pour qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation de nos dialogues. Mais effectivement, ce sont des jeunes qui, à un moment donné, sont allés sur la facilité, mais aussi parce qu'on ne leur a pas proposé autre chose. Donc, on m'entend souvent sur le volet répressif, parce qu'il est nécessaire. La sécurité, c'est un moyen pour faire autre chose. Hein. Mmh. La sécurité, c'est un moyen pour aller manger un cookie un après-midi, c'est un moyen pour une dame d'aller chez le médecin sans risquer de se faire agresser, ou d'un monsieur d'aller travailler. Mais le volet médiation, le volet prévention, le volet éducation. Là, moi, je suis affolé de voir qu'on ne remplace plus les professeurs dans les écoles. Je suis affolé de voir qu'il y a des classes qui ferment. Enfin, voilà, tout ce volet-là. Et là, l'État a sa part, clairement. Là, pour le fait, c'est l'État qui a sa part. Mais toute cette prévention, cette éducation, cette médiation, cet urbanisme, ces mobilités, tout doit être mis en place pour être chemin d'apaisement ou de sécurité pour les citoyens.
Et puis il y a les réseaux sociaux hein, qui sont très pratiqués, alors évidemment par les gangs, on pourrait le dire comme ça, mais c'est un peu le terme mexicain, ça fait presque peur finalement de se dire qu'aujourd'hui on a des gangs.
Bah, aujourd'hui on a des gangs, et on a même, on peut employer le mot parce que c'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de l'Intérieur, on a des mafias, mafia marseillaise, enfin il y a des mafias un peu partout, des mafias liées au narcotrafic, parce que la mafia a toujours existé, mais le milieu, comme on l'appelait. Mais là, il y a une nouvelle génération de mafias extrêmement violente. On voit bien, complètement déshumanisée. On voit bien que ces jeunes, quand ils sont arrêtés, ils ont parfois 16 ans, 17 ans, et ils tirent à l'arme lourde, à l'arme de guerre. C'est complètement déshumanisé. Et effectivement, ce phénomène-là, si à un moment donné, on ne dit pas stop, mais avec un grand S, on ne pourra plus l'arrêter, ou en tout cas, ce sera extrêmement compliqué. Or, je fais partie de ces gens qui pensent que la volonté politique peut tout. Il n'y a aucune fatalité. Ça, c'est mon petit côté gaulliste.
Voilà. La situation n'est pas désespérée, finalement.
La situation n'est pas désespérée. À Rennes, pas plus qu'ailleurs. Avec de la bonne volonté, en faisant exploser les idéologies et les dogmes, en redéfinissant les cadres, en travaillant tous ensemble. Et je pense qu'il y a besoin d'une union sacrée, par exemple, contre le narcotrafic à Rennes.
Il faut que ce soit transpartisan, finalement.
Voilà, exactement. Et qu'on puisse activer vraiment tous les leviers sans que... Voilà, on entend encore dire qu'à Rennes, on a encore des gens qui disent que les caméras vidéo ne servent à rien ou que ce sont des idées nauséabondes, etc. Bon, tant qu'on aura ça, par contre, ça ne pourra pas avancer.
Avec aussi un aspect, allez, il nous reste 5 minutes, j'avais envie de vous entendre sur l'aspect budgétaire, car aujourd'hui, ça ne vous aura pas échappé, il y a des économies à faire au niveau du budget, alors national, qui est dans l'état que tout le monde connaît aujourd'hui, avec des dotations peut-être revu à la baisse pour les collectivités locales, territoriales, les mairies. Là aussi, il va falloir arriver à composer, faire mieux avec moins.
L'exercice budgétaire des mairies, il est extrêmement compliqué. Et d'ailleurs, au dernier budget que nous avons voté, alors en l'occurrence, nous, on ne l'a pas voté, mais sans être l'opposant caricatural, j'ai même salué le travail de l'élu en charge du budget et des services, parce que avec moins, il fallait faire pareil, il faudrait même faire mieux quand on voit la situation de Rennes. Donc c'est un exercice là pour le coup qui est très compliqué, qui souffre pas les caricatures, qui souffre pas les postures, y compris même d'un opposant. C'est quelque chose on se projette, c'est quelque chose qu'on aura à avoir en 2026 aussi, et en 2027 et 2028. Donc il faut être extrêmement prudent sur les prises de position parce que c'est très compliqué. Et le budget de la ville de Rennes, c'est 460 millions d'euros. Hein. Je ne sais pas si les gens en ont conscience. Donc, c'est un budget très conséquent. Mais avec ces 460 millions-là, il faut administrer 226 000 personnes. Mmh. Donc, c'est une tâche qui est complexe. Il y a des investissements à faire. Il faut beaucoup de choses à faire. Il faut renouveler les équipements. Et il faudra faire des choix parce que le budget d'une ville ne peut pas être en déséquilibre, contrairement au budget de l'État.
Voilà, qui est très fortement déséquilibre. C'est presque un pléonasme que de le dire. Avec aussi une demande sociale importante, on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup de réfugiés à Rennes qui ne trouvent pas de logement, qui se retrouvent dans des campements sauvages. Là aussi, il faut avoir un aspect humain, il faut voir les choses par le prisme humain.
Alors, il faut le voir par le prisme humain, parce que quand on parle d'un cas, il est forcément terrible. Après, à Rennes, on a aussi un écosystème qui amène des gens. Je le dis, je sais que c'est politiquement hyper incorrect, mais c'est une réalité de terrain qu'on a pu voir. L'État aussi, les accords du Dublin font beaucoup de choses. Normalement, il y a une péréquation au niveau territorial. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, moi, je veux partir. Ou on leur dit, vous avez un logement, j'ai n'importe quoi, hein, à Besançon. Et vous avez des associations qui leur disent, non, partez pas à Besançon, restez à Rennes. Sauf qu'en fait, ils sont dans le parc de Maurepas. Au moment où on se parle, il y a des gens qui sont sous tente. Il y a des enfants dans des conditions sanitaires, même si on leur met des toilettes et tout, mais qui sont absolument pas normales. Et je parle même pas des conditions dans l'hiver. Et je crois que là aussi, on a un devoir de regarder tous ensemble la situation. Et pas utiliser la situation. Souvent, on parle de récupération politique. Malheureusement, il y a aussi beaucoup de récupération de la misère.
On voit aussi, ça résonne un petit peu avec l'aspect politique. Il nous reste trois petites minutes. J'avais envie de vous entendre aussi sur la montée de l'extrême droite d'un côté, puis également de LFI de l'autre, de cette gauche très virulente. Est-ce que c'est mauvais pour la démocratie, cette conflagration possible ?
La démocratie, elle permet justement toutes les expressions politiques, et c'est ce qu'on veut aussi. Après, la montée de la radicalité dans l'expression politique, dans les partis, elle m'inquiète, parce que ça veut dire qu'on n'a pas su parler aussi aux gens, parce qu'une personne qui vote LFI ou une personne qui vote Rassemblement National n'est pas une mauvaise personne. Il faut l'entendre. Et a priori, on n'a pas su lui parler, on n'a pas su lui proposer. Et donc, elle a un désir de radicalité. Sauf que la solution, elle n'est jamais dans la radicalité. On est en Bretagne. La solution, elle est toujours au milieu.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. On est quand même dans une terre plutôt de compromis, de discussion. Voilà, des fois, on a du mal à comprendre pourquoi, dans une ville comme Rennes, la discussion est si difficile.
Parce qu'on a laissé la radicalité prendre la place. Parfois même, on l'a financée. Alors, quand je dis « on », la majorité, comme un appui politique. On se sert des troupes pour dire ça nous permettra de garder le pouvoir. Sauf que les pompiers pyromanes, c'est jamais une bonne chose.
Avec tous les enjeux, on en parlait tout à l'heure, des municipales évidemment, plus tard de l'élection présidentielle, la fameuse maire des élections, et puis il y aura les élections régionales aussi. En un mot, là aussi, il y a l'aspect régional qui peut intervenir, alors peut-être pas sur des aspects sécuritaires, c'est pas le rôle de la région, mais sur tous les aspects sociaux, sur le développement également.
Alors la région a aussi un très très gros rôle à jouer sur les transports. Et sur le développement économique de la Bretagne. Et voilà, moi, je suis, par exemple, très, très inquiet du devenir de l'aéroport de Rennes. Sur aussi les implantations de sociétés. On voit toutes les problématiques qu'il y a eu de sociétés qui n'ont pas pu s'implanter. Et, on n'a pas parlé de la Jeannet, mais bon, ça va s'implanter. Mais on a vu ce qu'a dit le patron de Safran. Et là, la région, c'est la compétence de la région. Et on attend une région forte avec ces deux courants que sont la social-démocratie et la démocratie chrétienne, qui sont les deux courants historiques politiques bretons raisonnables, si je peux me parler ainsi, et qu'on attend de voir en action à la région.
On va devoir se quitter, parce qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire, puis vous allez revenir. J'ai cru comprendre que vous vous rasiez le matin, et donc que peut-être... Bon,
A priori.
Voilà, donc peut-être on poursuivra la discussion sur les élections municipales. En tout cas, merci infiniment, Charles Compagnon, d'être venu au micro de Bretagne 5. Je rappelle que vous êtes conseiller municipal d'opposition à Rennes, président du groupe Libre d'agir pour Rennes, et merci également pour votre témoignage sur cette fusillade que vous avez vécue sur le terrain. Merci infiniment, je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end.
Merci pour votre invitation.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.